Je me permettrai effectivement de dire deux, trois mots avant de parler de mon propre travail sur l'importance qu'a tenue dans mon parcours d'historien l'Association d'histoire des sociétés rurales. J'ai eu la chance, je dirais, de tomber dans la cour d'Annie Antoine à l'Université de Rennes 2 lorsque je suis arrivé du Québec pour faire mon doctorat. C'était au début de ce siècle. Et à partir de là, d'adhérer à l'association, de fréquenter les lieux et surtout de lire cette revue. Et pour moi, je dois dire qu'encore aujourd'hui, la grande majorité des relations que j'entretiens, pas toutes, mais une grande partie des relations que j'entretiens avec des historiennes et des historiens de France, est consécutive à ce passage et à cette association. Et vraiment, c'est pour moi extrêmement important. Donc, effectivement, samedi, nous rendrons hommage à Annie Antoine, qui m'a pris sous son aile et qui a, je crois, beaucoup apprécié la découverte des seigneuries enneigées du Québec. Alors, j'étais ici, en fait, en 2014, dans le séminaire, pour vous présenter, ou à ceux qui étaient là, et c'est toujours disponible sur la forge numérique de toute façon, mon objectif aujourd'hui n'est pas de tout répéter ce que j'avais dit à l'époque, mais peut-être de vous offrir quelques clés pour m'assurer votre compréhension de ce film qui, néanmoins, je pense, peut se voir sans présentation, et il est d'ailleurs accessible en ligne maintenant. Alors, j'étais venu en 2014 vous parler de ce projet intitulé Persistance, les persistances du régime seigneurial au Québec, économie, société, culture. Et en 2013, il y avait eu, avec l'un de mes doctorants à l'époque, Michel Morissette, une publication dans la revue Histoire et Société rurale, qui était issue de la première phase de ce projet, qui expliquait la persistance de cette institution d'Ancien Régime dans le Québec très tardivement, et qui expliquait aussi qui étaient finalement ceux que l'on pouvait qualifier de derniers seigneurs dans l'histoire du Québec aussi tardivement que 1940. Alors, je ne redirai que quelques mots aujourd'hui. Par la suite, je me suis engagé dans la seconde phase de cette recherche qui m'a occupé, je dirais, pendant pas près d'une décennie, sur les traces de la mémoire de cette institution seigneuriale, les traces laissées tout au long du 19e et même du 20e et de la deuxième moitié du 20e siècle auprès des descendants de familles seigneuriales, mais aussi auprès d'autres porteurs de la mémoire de la seigneurie. Alors, brièvement, il faut peut-être rappeler que si on retient généralement la date de décembre 1854, le 18 décembre 1854, comme étant la date de l'acte abolissant les droits et devoirs seigneuriaux dans la province du Bas-Canada, c'est le nom que l'on donne à l'époque à la province de Québec. Donc, si l'on retient généralement la date du 18 décembre 1854, cette date n'est qu'une étape dans cette longue et lente extinction de la seigneurie au Québec. Pourquoi? Parce que, bien loin du contexte révolutionnaire, en 1854, même si le régime seigneurial a, disons, été, et depuis un certain nombre de décennies, de plus en plus anachronique dans une société qui s'industrialise et qui s'urbanise, néanmoins, l'abolition se fait par voie législative et avec le souci de l'indemnisation au seigneur. Une indemnisation à la fois des droits de propriété éminente, c'est-à-dire les droits que tiennent qu'ont les seigneurs sur les tenures, sur la mouvance des seigneuries, mais aussi un souci de la propriété directe des seigneurs, avec le maintien notamment de toutes les terres domaniales, mais aussi, et ce n'est pas négligeable dans le contexte colonisateur du Québec, toutes les terres non concédées. Donc la loi de 1854 va donc, en quelque sorte, maintenir des seigneurs et des censitaires de deux manières. D'une part, par la persistance de terres que l'on dira encore parfois jusqu'à nos jours seigneuriales parce qu'elles sont l'héritage de ces terres qui autrefois étaient possédées par les seigneurs au moment de l'abolition et qui, dans certains cas, le sont encore aujourd'hui. et d'autre part par le maintien ou la création d'une rente constituée en remplacement des rentes seigneuriales. Alors, j'expliquais tout ça dans le détail en 2014. Je vous renvoie à la forge numérique là pour davantage de détails. Mais donc 1854 met en place des mécanismes d'abolition, mais il faut s'apercevoir que finalement les paysans, les censitaires du Québec n'avaient aucunement l'obligation de procéder tout de suite au rachat de cette rente seigneuriale pour devenir pleinement propriétaires de leurs terres. On leur permettait donc de payer cette rente annuellement, mais à perpétuité, jusqu'à ce qu'un jour, ils décident de payer un montant fixe représentant le capital de cette rente, ce que bien peu d'entre eux feront, puisqu'il n'y avait ni intérêt, mais puisqu'ils n'avaient bien souvent pas le numéraire pour le faire. Et forcé de reconnaître que la quittance à aller obtenir chez un notaire était probablement plus élevée que le petit montant payable annuellement. Donc, la tradition, la routine a eu pour effet de maintenir, non sans mécontentement parfois, mais de maintenir cette trace et ce rapport entre les seigneurs et puis leurs descendants et les censitaires et leurs descendants pendant près d'un siècle après 1854. Vous voyez derrière moi à l'écran donc ces extraits de journaux qui rappellent qu'en 1940, le gouvernement du Québec a agi pour mettre ultimement fin à ces persistances d'Ancien Régime en adoptant une loi visant à abolir ce qu'on appelle encore les rentes seigneuriales dans la province de Québec. Et donc, ces rentes disparaissent le 11 novembre Saint-Martin d'hiver, hein, la date traditionnelle du paiement des redevances seigneuriales dans la majorité des seigneuries du Québec, ces rentes disparaissent et avec elles, le lien seigneur-censitaire, on pourrait dire l'ultime lien féodal qui subsistait en Amérique du Nord.
Saint-Martin d'hiver, de quelle année?
1940. 11 novembre 1940. Et voyez les journaux.
Il s'est passé beaucoup de choses en 1940. Voyez, n'oublions pas la Saint-Martin d'hiver 1940.
Exactement. Sur le plan de l'histoire rurale, c'est une date fondamentale. Mais bien entendu, chez les historiens, surtout les historiens du contemporain, et dans les journaux de l'époque, il faut bien reconnaître qu'en 1940, il se passe bien d'autres choses qui retiennent l'attention des médias. Donc, fin de cette relation seigneur-censitaire. Pour faire une histoire courte, l'État indemnise les détenteurs de droits seigneuriaux pour cette ultime perte. Et par la suite, ce que les censitaires devaient encore, on ne leur en fait pas cadeau, cette ancienne rente sera transformée, commuée en une taxe municipale acquittable par les municipalités à un organisme à Québec, une fois que les habitants des municipalités se seront acquittés annuellement pendant une période de 41 années prévues par la loi. Additionner 1940 à 41 années, ça nous mène en 1981, tout près de nous, mais dans les faits, toutes ces rentes, toute cette somme qui avait été nécessaire pour indemniser les seigneurs aura été éteinte dès 1970, si bien qu'à partir de 1970, plus de rentes, qu'elles soient seigneuriales, municipales, mais héritées de la seigneurie. Donc, 1854, c'est la date formelle de l'abolition. 1940, c'est une date clé, parce que le lien féodal est rompu, mais quand même, des gens se souviennent d'avoir versé une taxe dite seigneuriale dans beaucoup de municipalités à travers le Québec, aussi tardivement que le début des années 1970. Seulement pour vous, ceux qui ne seraient pas familiers, derrière, vous voyez la carte du territoire de la province de Québec et la zone en violet, ce sont les seigneuries. À peu près 300 seigneuries concédées au fil du temps, et certaines aussi grandes que la Corse. L'île d'Anticosti, dans l'estuaire du Saint-Laurent, c'est exactement la dimension de la Corse. Alors, vous voyez, du fait de l'abolition, ces terres qui sont absolument sans paysans, sans développement du moins agricoles, deviennent propriétés pleines et entières des seigneurs après 1854, qui pourront en jouir en pleine propriété. À partir de 2014, je me suis lancé avec mon équipe d'étudiants, mais aussi avec ma collègue historienne et cinéaste, Stéphanie Lantier. Alors, le film que vous allez voir dans un instant, c'est la réalisation de Stéphanie Lantier, une spécialiste de l'histoire des femmes, mais qui s'est beaucoup intéressée à la forêt dans l'histoire du Québec et aux plantations d'arbres, notamment, dans différents films documentaires. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur son talent de cinéaste, ce qui fait que nous nous sommes décidés à aller chercher les derniers porteurs de cette mémoire seigneuriale à partir de 2014. Et donc, de 2014 à 2017-18, nous avons été faits à peu près 14 000 kilomètres, parcouru ce qui correspondrait à une quinzaine d'anciennes seigneuries et rencontré Entre 30 et 40 descendants ou autres témoins des persistances seigneuriales que vous verrez. Évidemment, le film que vous verrez est l'aboutissement de ce projet où vous verrez les témoignages directement que nous avons consignés, mais aussi, je dirais, des images que nous aurons captées sur les lieux, puisque avec les moyens dont nous disposions, mais nous avons voulu aller filmer là où cette mémoire était signifiante, alors soit dans les anciennes seigneuries, chez les gens directement, la plupart du temps, donc que nous avons eu le privilège de rencontrer et qui nous ont fait le privilège de nous recevoir chez eux. Alors, trois axes se sont manifestés. La mémoire familiale, c'est essentiellement ce que vous verrez dans le film. Une mémoire plutôt patrimoniale ou une mémoire qui passe souvent à travers des gens qui sont porteurs de ou possesseurs de biens seigneuriaux, d'anciens manoirs ou d'anciens moulins. Vous verrez un peu cela aussi dans le film. Et une mémoire que je qualifierais d'institutionnelle, parce que nous avons cherché à interviewer aussi des porte-paroles d'institutions ecclésiastiques qui possédaient de vastes territoires seigneuriaux et qui, encore aujourd'hui, en sont détenteurs. Notamment le séminaire de Québec, qui possède une forêt privée de 1600 km², tout près de Québec, et le séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, qui a encore aujourd'hui certains droits seigneuriaux sur l'île de Montréal. Montréal, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, par contre, ce volet-là de la mémoire institutionnelle fait partie d'un projet à part, d'un documentaire à part, et vous ne verrez pas cela aujourd'hui. Alors, je terminerai en vous disant que le film que vous verrez peut être accessible par le biais de la page web de la recherche sur les persistances seigneuriales sur le site Internet de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous pouvez trouver cela facilement en ligne. Et je pense qu'on pourra diffuser le lien en même temps sur la forge numérique avec la conférence. Et donc, on peut y voir le film, ce long métrage, mais aussi 4 ou 5 autres courts ou moyens métrages plus thématiques ou sur des seigneuries particulières.